de Flat présente Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM
98 FM. Focus
98 FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans Focus. Sidi, comment est-ce que tu vas?
Ça va et toi?
La forme. On
tout s'est bien passé.
Jamal et Farah, ouais, très très bien. Tu parles de quoi de ma journée?
De tout. La journée, la semaine, tout. On s'est quitté il y a une semaine, donc
ouais,
je voulais savoir si ça allait, tu vois.
Ouais, la forme, tout va très bien. On a et Farah comme... avec nous.
Ouais, Farah toujours, elle est là. La pièce maîtresse.
Derrière la caméra et Jamal, le boss.
Jamal, comment tu vas? Quand il nous met ça, c'est que ça va très très bien. Impeccable.
Et aujourd'hui, on est avec Nicolas Delarua, que Jamal connaît bien. Comment est-ce que tu vas?
Ça va, et vous-même?
Et moi, ça va très bien, très bien. Et que Jamal connaît bien, mais que beaucoup de gens aussi connaissent. C'est pour ça qu'on on va parler un peu de lui, de son parcours, qui est très inspirant et justement qui a fait beaucoup de choses, justement. Et là, nous, on aime bien ça, tu vois, sur Focus.
Si t'es là, en l'occurrence, c'est notamment pour parler de France, un livre c'est que tu as sorti récemment.
Exact.
Un peu une ode à la paix, au vivre ensemble, à l'amour. Un livre qu'on a tous les deux beaucoup apprécié, on l'a dit juste avant.
Ouais.
Jamal a adoré aussi, Farah aussi a kiffé.
Et je dis pas magnifique. Ça parce que c'est un invité, et tu vois, non, c'est vraiment, tu m'as réconcilié en fait, tu m'as apaisé. Vraiment, je le dis parce que le livre, quand je l'ai lu, il était apaisant. Et vraiment, et je le conseille à tout le monde, donc France, allez le chercher, allez le lire, partagez-le aux enfants, aux plus grands, aux plus vieux, à qui vous voulez, mais vraiment, c'est... Bravo.
Merci. Voilà. Merci
et on va le découvrir, on va te découvrir aussi à
avec
travers
plaisir.
Tout ça.
Avec ouais, plaisir.
Ce bouquin, son contenu, on va le décortiquer. Mais t'as eu plein d'autres casquettes aussi dans ta vie.
Oui.
T'as notamment fait du rap.
Exactement.
Sous le nom de Dernier Pro.
Dernier Pro, ouais.
Et Jamal t'a préparé une petite surprise pour l'occasion. On va commencer avec ça.
Vous écoutez Focus sur IDFM Radio. Dans les clubs et les caisses, les campagnes et les tests, on donne du lourd car là peut vendre. Pour les concerts où les mecs pissent, nique les formats, car là peu vend. Dans les clubs et les caisses, les campagnes et les tests, on donne du lourd, car là peu vend. Pour les concerts où les mecs pissent, nique les formats, car là peu vend. C'est drôle, mais je sais pas par où commencer. Je pourrais te dire que tu manques, mais ça tu le sais. C'est drôle, mais je sais pas par où commencer. Je pourrais te dire que tu manques, mais ça tu le sais. Et je tente de garder le sourire. Mais je flanche face à ton souvenir. Même si dans mon cœur pour toujours tu existes. Rien à faire, la vie passe trop vite. Toujours prêt à mouiller le maillot. File-moi un stylo, un beat bien graillon. Mets le couvertillo. What goes up, it must come down. When the curtains close, who's gonna be around? Parole à force de trop blablater. Tu m'as soulé. Je suis un MC, un vrai. Pelle-moi, New Yorkais. Phénomène sur le mic, pelle-moi. Danger, rangé, vos phases changées. Trottoir, baissé, mais yes, transpratique. Mon art, dinguerie, boucherie. Comme ça, qu'est magique. Flow de fou, inédit. Je suis trop magique, basique. Beat, bass, MC, DJ. Juste pour break les necks, les mecs. J'espère que t'as pigé. Que t'as pigé. J'ai pour les kiffers à l'ancienne. Dagger et boogeyman. Pro hip hop, again and again. J'mouille le maillot. Du rap dans les veines. Le kiff de la scène. Plus d'amour que de haine. Again, j'mouille le maillot. Yeah, yeah. J'écris ce texte entre deux couches et un biberon. Ton rap c'est le ghetto, moi je fais du rap de dab, rap de dab.
Les raisons me détester, je vais t'en donner des tas. Le peuple aura sa revanche, aura sa vendetta devant le tas. Le supplice affligé par l'état. Et ça me laissera de glace, ça sera pas de la vienneta.
Les raisons me détester, je vais t'en donner des tas. Le peuple aura sa revanche, aura sa vendetta devant le tas. Le supplice affligé par l'état. Et ça me laissera de glace, ça sera pas de la vienneta. Spill comme un missile, groove comme missile. Phelps dans une piscine, flip quand je kick ici. Qui s'y colle, qui veut tenter sa chance? MC d'ailleurs ou d'ici, je vous mets en transe. Ramène, mène, m'amène, bol du sel. Je le fous à la traîne quand je kick, man, tu saignes. Je connais mes classiques comme Jamal. J'ai même pas ouvert la bouche, trop de MC ont Jamal.
Même au ralenti, t'arrives pas à nous suivre. Vas-y, cours, et puis trim, petit trim. Accroche-toi si tu veux choper la rime. Vas-y, cours, et puis trim, petit trim. Même au ralenti, t'arrives pas à nous suivre.
Vous êtes sur Focus sur IDFM Radio 98 FM. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite surprise, Nicolas?
J'avais oublié que j'avais fait autant de autant de sons, mais non, Jamal, mes respects, Jamal.
Mais en plus de ça, incroyable. Je connais mes classiques comme Jamal. Attention, ça veut dire que déjà dernière pro, c'est quelqu'un, Nicolas, c'est quelqu'un dans la musique aussi. Et il faut, t'as tout notre respect en tout cas.
Merci
vraiment.
Beaucoup, merci.
Parce que et puis Jamal est là aussi. Les gens ils savent pas, mais c'est quelqu'un de la musique et qui a fait évoluer la musique. Donc,
exactement.
Tu vois.
Ouais, Jamal s'est jeté des fleurs dans.
Non, mais c'est important. Et tout à l'heure, on en parlait aussi avec Nicolas. On en parlait en off. Tu vois cette transmission, tu vois de la culture du rap des années 90. Même avant, tu vois. Donc, il y a tout cet héritage en fait, et t'as fait partie de ça, justement, Nicolas. Tu vois. Avant de parler de ton livre, moi, j'aimerais revenir sur ta carrière, justement, de rappeur, de producteur, de.
Ouais, bah écoute, ouais. Moi, tout simplement, je découvre le rap en, je sais pas, 89, 90, dans ces eaux-là, et c'est une vraie claque parce que c'est une musique. Moi, j'avais quoi? J'avais 13, 14 ans à cette époque-là. C'est une musique qui nous ressemble, dans laquelle on se reconnaît, qui paraît accessible à faire. Donc, très vite, en fait, je décide de prendre part à ce mouvement qui est le hip-hop. Et puis, ça va plus me lâcher pendant des années. Je vais vivre des choses incroyables parce que cette culture, je veux dire, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce au hip-hop. Le hip-hop, c'est une culture qui est fascinante. Et oui, tout à l'heure, on parlait du fait que c'est important de connaître cette culture, même aujourd'hui, pour des jeunes qui débutent, parce que c'est une culture, c'est pas un truc de passage.
Exactement.
Et justement, moi, je me souviens qu'à l'époque, il y en a plein qui nous disaient ça va durer 3-4 ans.
Exactement. Et maintenant, les 3-4 ans, ça fait 50
ça
ans.
Ça fait 30, 40 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Et en tout cas, respect en fait à ta carrière.
Merci.
Et respect à tout ce que tu as fait par rapport à la musique. Et on va en revenir. Mais aussi, tu as une autre casquette aussi.
Mm-hmm. Ouais. Ouais,
plus récente, tu as écrit un bouquin qui s'appelle France, on l'a dit en introduction.
C'est ça.
Sidi l'a dit, hein, tu es ancien rappeur. Aujourd'hui, tu es à la tête de ta propre agence de communication. Et pour autant, un peu à la manière d'Ali Ramdan qu'on a reçu la semaine passée, tu as voulu t'essayer dans un autre domaine et tu l'as parfaitement fait. Hein, le livre, il est super. Ça a été quoi le déclic pour toi pour te lancer dans cette écriture?
En réalité, comme encore une fois, je viens du rap, j'avais déjà un amour de l'écriture. Et quand j'ai arrêté de rapper, que j'ai ouvert mon agence de communication avec laquelle je fais de la vidéo, de la photo, gestion de réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est hyper épanouissant pour moi parce que je trouve que l'image, c'est une continuité de la musique. Mais ça me manquait en fait, le fait d'écrire. Ça me manquait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. En réalité, quand on aime vraiment l'écriture, on a besoin de pratiquer. Et donc j'avais ce besoin. Et puis je me suis dit que ma propre histoire, elle pouvait forcément parler à des gens parce qu'on a tous notre propre histoire. Et donc ça fait de nous des gens uniques. Et si je suis unique, à partir de là, ce que je vais dire, ça va être intéressant si je le dis bien, et ça pourra toucher, inspirer, et c'était le but de ma démarche.
Et je te le dis, et je te coupe, je sais que Melik allait intervenir, moi je me rapproche un peu plus de ton âge que Melik, et on a tous les deux apprécié justement, on s'est tous les deux vu dans l'histoire que t'as retranscrit en France, tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Vraiment, tu vois, c'est... Et quand je dis que tu m'as apaisé par rapport à l'écriture et par rapport à, tu vois, au vivre ensemble et tout ça, c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que j'incite à tout le monde, hein, que ce soit les plus petits ou les plus jeunes, à lire le livre, tu vois, parce que, en fait, et tu te réconcilies déjà avec la lecture, tu vois.
Il se lit facilement.
Exactement. Mmh. C'est ça que j'allais dire, tu vois. Ouais. C'est cette fluidité, justement, de lecture quand on me dit, ouais, moi, il faut lire un livre. J'ai bégayé un peu, tu vois.
C'est un projet, quoi.
Tu vois, je me suis dit, waouh, je me suis revu dans les, tu vois, en sixième, et fallait lire les trucs, tu vois. Mais au final, il se lit facilement, il se lit bien et compréhensible et en bon français. Mmh. Tu vois, voilà, c'est.
Et on a envie de découvrir la suite.
Exactement,
tout de suite, ouais,
tu vois.
De le finir d'une traite. Et, déjà, les gens qui nous écoutent sous-entendre parler là d'un bouquin en particulier qui s'appelle France. Est-ce que tu pourrais le décrire, ce bouquin? Qu'est-ce qu'il raconte et comment est-ce que t'as travaillé pour arriver à ce produit fini?
En réalité, déjà, il y a un choix de titre, parce que France, je trouvais que c'était une façon de se réapproprier ce mot aussi. Comme on peut se réapproprier le drapeau qui a longtemps été utilisé par des gens d'extrême droite, et quand on voyait un drapeau bleu, blanc, rouge, on avait l'impression que c'était des fachos, quoi. Et je trouve que, c'est pas à eux tout ça. Et nous, il faut qu'on se réapproprie ça. Donc j'avais déjà cette démarche-là de dire, OK, ce livre, il va s'appeler comme ça. Et dans ce livre, je vais raconter ma vision de la France, mais en m'appuyant sur ma propre histoire. Et je vais expliquer ce que je pense de ce qu'on vit tous dans cette époque, mais aussi d'où je viens, de les époques que j'ai pu traverser, et parler du fait, tout simplement que on voit justement, je parlais de l'extrême droite, on les voit monter de plus en plus, comme ça on voit les gens se replier en communauté, se replier en suivant leur religion, suivant leur couleur, suivant leurs origines. Et ce livre, il vient dire que c'est pas une bonne chose, et que au contraire, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on apprenne à se connaître, peu importe qui on est, il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on apprenne à discuter ensemble. Et on va avoir des bonnes surprises si on fait ça, justement.
Il l'a très bien décrit. D'ailleurs, tu parlais Exactement. De se réapproprier le drapeau. Je crois que le titre est écrit avec les couleurs du drapeau français.
Exactement. Il y a 6 lettres, donc 2 en bleu, 2 en blanc, 2 en rouge.
Et français, justement, tu disais apprendre à se connaître. Et moi, je vais revenir sur une phase et une phrase du livre qui m'a marqué, moi, parce que j'aurais pu me reconnaître dans ça, parce que on a côtoyé tous des gens, on allait tous chercher à l'époque, on allait taper à la porte pour dire est-ce qu'un tel est là, est-ce qu'un tel est là, tu vois. Et là, tu parles d'un pote à toi, justement, dans ce livre, avec qui tu faisais le trajet, que tu faisais plein de choses, tu vois, tu vous attendiez pour justement rentrer ensemble,
du
partir
collège,
à l'école,
au
collège.
Bien sûr.
Et y a une phrase qui m'a marqué, Je te laisse expliquer ce moment-là, juste pour que tout le monde comprenne et que moi je fasse pas de fausses annotations.
Ouais, je vais la lire, la phrase, parce que je l'ai sous les yeux. C'est du coup, tu vas chercher ton ami Christophe comme presque tous les jours sur le chemin.
C'est
de l'école.
Ça. On rentrait le midi. En fait, on était externe.
Exactement.
On rentrait le midi et lui habitait plus proche que moi du collège. Donc moi, à 13h, en repartant de chez moi, je passais sonner chez lui pour terminer le trajet ensemble.
Et là, il te dit. Nicolas, il faudrait que tu arrêtes de venir me chercher parce que ma mère croit que tu es arabe.
Ouais, c'est ça.
Incroyable.
Donc moi, j'avais 12 ans.
Incroyable.
J'avais 12 ans et c'est ma rencontre avec le racisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en réalité, il y a deux choses. La première des choses, c'est que je ne suis pas un arabe.
Ouais.
Donc, et la deuxième des choses, c'est que je réalise que l'apparence, la seule apparence, peut fermer des portes dans la vie.
Voilà.
Quand des gens, justement, ne cherchent pas à en savoir plus sur toi, parce qu'elle, elle part déjà d'une erreur, sa
c'est
mère.
Exactement, c'est ça.
Et en plus, c'est forcément une personne fermée, puisque de cette erreur, elle ne cherche pas à en savoir plus, et je suis condamné à plus venir chercher mon pote.
Avec qui, justement, je te coupe, mais avec qui tu faisais ton trajet, avec
oui.
qui, justement, tu te sentais bien, tu parlais de tout et rien, tu
voilà.
vois.
Voilà. Donc, c'est ultra violent. Parce que chez moi, il n'y avait pas ça. Moi, je savais même pas que ça existait. Moi, j'ai 12 ans. Moi, je suis d'une famille mes grands-parents sont venus en France. On était, c'était des immigrés espagnols. Et moi, j'ai jamais entendu parler de racisme ou de problèmes de couleur de peau. Quand je voyais des gens, je voyais pas des couleurs, je voyais des personnalités. Et là, pour la première fois, on me dit, non. En fait, parce que tu ressembles à ça, faut plus que tu viennes. On te ferme une porte.
Comment tu reçois ces propos, du coup, en tant qu'enfant, adolescent?
À 12
quel
ans.
Impact ça a sur toi?
En fait, déjà, c'est très violent. Et je pense, très sincèrement, et c'est pour ça que le livre commence avec cette anecdote-là, parce que je pense que c'est une pierre angulaire de ma propre construction. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, peut-être que je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui.
Ouais.
Ce truc-là, ça a réveillé quelque chose chez moi, ça a déclenché quelque chose, ça m'a frappé. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Et j'ai compris surtout que je ne voulais jamais être comme ça. Jamais.
Et justement, sur tout le long du livre, on voit que tu fais ce parallèle, en fait, à chaque fois. Sur toute l'évolution de ta carrière, que ce soit dans ton travail de cheminot, dans ta découverte du rap, dans ta lecture aussi, dans ton pas à l'écriture. On voit que tu fais toujours ce parallèle-là, et parce qu'en fait, et c'est ce que tu dis, c'est que quand on est petit, ce qu'on vit, c'est, pour moi, c'est comment je l'ai ressenti, c'est ce qui va te forger,
te construire,
tu vois.
Bien sûr, ouais, totalement. C'est ce qui va me forger. Et puis surtout, ce que je dis aussi à la suite de cette anecdote, c'est qu'à côté de ça, moi, j'ai un pote qui s'appelle Hadj, qui lui est d'origine marocaine. Et le contraste, il est.
Et on va en revenir justement à ce.
Il est frappant parce que quand je vais frapper chez lui, on m'ouvre la porte, on me fait rentrer, on me donne à manger. Il y a des sourires, il y a de l'amour. Et puis quand t'es un gamin, tu dis mais c'est mieux là-bas.
Bien sûr.
Enfin même quand t'es pas un gamin, mais encore plus.
Quand t'es un gamin, ouais.
Tu dis mais c'est là-bas qu'il faut que j'aille.
Ouais. Tu dis que la mère d'Adj te considérait même comme son fils.
Comme son fils, bien sûr. Encore aujourd'hui, on est toujours. C'est mon frère. On est toujours très souvent ensemble, et ses parents, quand je croise ses parents, voilà.
C'est mon fils.
Il manque juste à m'ajouter sur le livret de famille.
mais c'est vrai en plus, et c'est ça, et c'est ce qui est fou. C'est que, et moi, je me pose la question tout le temps, c'est cette fracture, elle est arrivée à quel moment en fait? Parce que moi, t'as vu, c'est pour ça que je te dis que je me suis vu. Et puis aussi, Mélik aussi, et tu pourras reparler aussi de toi et de ton parcours. Je sais pas à quel moment il y a eu cette fracture, en fait, tu vois. Parce que moi, la porte, elle était ouverte. Ça veut dire que moi, mes potes, ils s'appelaient Philippe, Julien, Abderrahman, Mamadou, ce que tu veux. Et la porte, elle était ouverte. Ça veut dire qu'on était là. Il n'y avait pas de, tu vois, Steve. C'était des feuges, rebeux, français, tout ce que tu veux, tu vois.
Ouais, on vivait en communauté.
On vivait en communauté, mais moi, je sais pas le déclic qu'il a été.
Et tu sais, je
me pose la question, en fait.
Tu sais, je pense que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de fondateur de tout ça. C'est la porte. Qu'est-ce que tu fais de ta porte? Tu l'ouvres
ou tu la
laisses fermer, tu vois? Et cette dame-là, elle l'a laissée fermer. Et à côté, il y avait mon frère Hajj, qui lui...
L'a ouverte.
Et c'est là où c'est plus fort, et ça aussi j'en parle dans le livre, c'est que des fois, quand je toquais chez lui, sa mère, soit elle me faisait rentrer, ou soit s'il était prêt à sortir et qu'il allait arriver dans une minute, elle laissait la porte entrouverte. Elle n'était jamais fermée, la porte.
C'est-à-dire que tu as la possibilité de rentrer parce
Moi, je me rappelle de ça.
Ouais, c'est fou.
C'est-à-dire on ne te ferme pas la porte au nez. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est puissant. Donc c'est pour moi c'est ça, c'est en fait qu'est-ce que tu vas faire de ta porte. Si tu décides de la fermer, ça en dit long sur qui tu es, sur comment tu vois le monde et comment tu vois les gens. Parce que si tu as peur que des gens rentrent chez toi, parce que tu as peur, je sais pas, qu'ils soient différents de toi, qu'ils te volent ou que je sais pas de quoi elle avait peur cette dame. Mais c'est quelque chose de très mauvais. Faut ouvrir les portes.
Et Sidi, tu m'as fait une passerelle, mais moi ce dans quoi je me suis beaucoup reconnu, c'est un peu ce truc d'empathie naturelle où la tristesse, la colère de l'autre, va toi-même t'affecter et tu vas vouloir essayer de comprendre, d'échanger avec les gens et essayer de trouver les raisons à leur malheur finalement.
Oui, bien sûr, parce que tu sais, c'est facile de dire parce que si on dit des gens vas-y lui c'est un facho, vas-y je lui ferme ma porte. Donc on fait comme eux. L'idée c'est de dire ok, qu'est-ce qui va pas chez toi, vas-y viens on s'assoit.
Viens on parle,
parce que moi j'ai pas envie d'être comme eux finalement. J'ai envie d'être quelqu'un avec qui tu peux t'asseoir, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens. Après je dis pas que je vais m'entendre, je suis pas un bisounours,
ouais, bien sûr.
Je vais m'entendre avec toute la terre, mais en tout cas l'idée c'est de pas fermer la porte à quelqu'un pour ce qu'il est en tant que couleur de peau, origine géographique, religion, ça jamais. Par contre, si ta personnalité et la mienne ne collent pas ensemble, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Bon, voilà, mais on va se laisser chacun faire sa route.
Voilà, tu te dis bonne chance, salut, voilà.
Ah, c'est tout. Mais il y a pas en fait, tout ça ne va pas être basé sur des préjugés. C'est une fois qu'on se connaît, on va voir si on peut faire un bout de chemin ensemble ou pas. Mais d'abord, apprenons à nous connaître.
C'est ça. Et je voulais revenir aussi sur un truc parce que tu parles d'un truc aussi. Qui va te révéler tout le long, c'est que tu parles beaucoup de tes parents dans ce livre. Et tu parles justement de l'écoute que tu pouvais avoir, qui te donnait.
Bien sûr.
Et en fait, il n'y a jamais eu de tabou.
Exactement.
Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire.
Chez moi, c'était. On était une famille de j'ai deux petits frères, donc on était cinq avec mes parents. Et c'était une maison où tous les potes pouvaient venir. Et puis il y avait les repas du soir, quand le daron rentrait du taf et qu'on s'asseyait. Le repas, c'était le moment où on était tous réunis. Et ça discutait de tout. Ça discutait de tout. Il n'y avait pas vraiment de tabou. On pouvait, c'était ouvert. On pouvait poser des questions à la fois sur, moi, j'ai posé beaucoup de questions à mes parents sur, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et puis après, on racontait aussi ce que nous, on vivait. Nos journées d'école, j'ai vu tel pote, on a fait ça, machin. Et il y avait comme ça cet échange, ou même sur les croyances. Moi, j'ai toujours cru en Dieu, j'en ai parlé, mes parents sont plutôt athées. On a échangé beaucoup là-dessus, mais j'ai jamais ressenti de, tu vois, par exemple, sur la religion, j'ai jamais ressenti de, non, c'est n'importe quoi, non, jamais. Ils ont toujours respecté mes choix.
Tes choix, et on en reviendra justement un peu plus tard sur l'émission par rapport à la religion aussi.
Ouais, tu dis que t'as des parents très ouverts qui t'ont permis finalement de rêver. Mmh. C'est aussi ce qui t'a permis de te lancer dans la musique, t'essayer à cette activité et à trouver du plaisir là-dedans.
Exactement, ouais. Très tôt, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai découvert le hip-hop, j'ai voulu être plus qu'un auditeur, j'ai voulu prendre part à cette culture. Et chez mes parents, on était dans un petit pavillon et au-dessus du garage, il y avait un grenier. Et petit à petit, j'ai monté mon studio dans ce grenier. Et comme on était, alors je précise, on était à une heure à l'est de Paris, entre Paris et Reims, du côté de Château-Thierry, dans l'Aisne, le 02. Et là-bas, il y avait pas de j'étais un des premiers moi à faire du peur à là-bas. Il y avait pas de studio, il y avait pas tout ça, donc il fallait être à la fois au four et au moulin, mais c'était très formateur parce que j'ai dû apprendre à composer, enregistrer, mixer, masteriser, écrire, tout. Faire les pochettes,
exactement,
distribuer les disques soi-même, etc. Donc c'était hyper formateur. Et puis quand je venais sur Paris, que j'allais à la Défense, à Puto, peu importe, je croisais des gars dans des MJC et c'était top de pouvoir venir se confronter un peu de manière
le rap c'est une compétition, c'est une concurrence
et, voilà, et nous on repartait dans notre campagne, on allait forger nos skills et puis après on revenait sur Paris et sa banlieue pour dire attention, on est là attention.
et c'est comme les Parisiens, parce que moi je le souligne, parce que quand t'allais jouer aussi en province, les gens ils disaient ouais mais ils connaissent pas le rap tout ça, mais tu te prenais une claque là-bas vraiment, tu vois.
Ouais.
Et je le dis parce que tu pouvais aller justement jouer dans des à Clermont-Ferrand, partout, tu vois, là où tu te dis que, parce que les Parisiens ils pensent que le rap c'est né là-bas, tout est tu vois. Mais en fait que t'allais en province un peu, tu prenais un peu des kilomètres pour aller voir un peu comment ça se passe. Mais t'as des mecs qui venaient, qui kickaient.
Des kiffeurs partout.
Exactement, il y avait des kiffeurs, des gens qui étaient là pour tout, tu vois.
C'est vrai.
On va rester dans le thème de la musique. Nous, on adore ici découvrir nos invités à travers la musique qu'ils aiment,
ouais,
au-delà de la musique qu'ils font, là, pour le coup.
Ouais.
On va s'écouter un premier extrait et tu vas nous dire pourquoi tu as fait ce choix.
Ça marche.
C'était Focus sur IDFM Radio 98.5.
La violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur d'une génération révoltée, prête à tout ébranler. Même le système qui nous pousse à l'extrême. Mais NTM suprême ne lâchera pas les rênes. Nous appartient, la puissance est dans nos mains.
sens que c'est une émission qui fait plaisir à Jamal là, avec les...
Ah, pas que, il y en a beaucoup musicaux qui nous écoutent et t'inquiète pas, et on est là pour transmettre aussi.
Bien sûr, c'est le but.
On est là pour transmettre et justement avec Nicolas, c'est un bon prétexte de transmettre. Ce qui nous rappelle des sons.
Exactement, c'est quoi ce premier morceau et pourquoi est-ce que tu l'as choisi?
Alors, c'est Supreme NTM, Le Monde de Demain, et je l'ai choisi parce que j'ai, dans les trois titres que j'ai choisis, j'ai fait quelque chose de chronologique. Et comme je disais tout à l'heure, si je suis ce que je suis aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la culture hip-hop. Et ce titre-là, pour moi, c'est, je crois que ça date de 1990, Jamal, tu confirmes? Ouais. 1990, donc c'est vraiment, bon, il y a eu la compile Rap Attitude avant ça, mais c'est vraiment le moment un peu où je découvre cette culture. Et NTM, pour moi, ça reste un des groupes qui m'a le plus marqué parce que sur scène, c'était tout simplement incroyable. Et parce que voilà, il y avait un vrai message, il y avait le sérieux de Kool Shen, la folie de Joey Starr, et ça a amené quelque chose de vraiment incroyable. Et pour moi, j'aimais IAM, j'aimais bien Solar, j'aimais Tonton David dans un autre style, etc. Mais NTM, pour moi, c'était vraiment les plus charismatiques et les plus costauds à cette époque-là.
Voilà, j'aime bien.
et donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et puis donc ça représente à la fois le début de cette culture pour moi, parce qu'elle a commencé même dans les années 80 aux États-Unis. Quelques Français aussi plus âgés que moi étaient déjà dans cette culture dans les années 80. Mais moi, je suis arrivé à peu près à cette époque-là et ce groupe-là a été fondateur pour moi.
Quel bel hommage rendu.
Quel bel hommage. J'espère qu'ils nous écoutent, Nobru et Didier. On va dire ça comme si on les connaissait, t'as vu. Mais j'espère qu'ils nous écoutent et vraiment parce que ouais, c'est ça. Et c'est, je pense que t'es pas le seul et je pense que, et de toute façon, les rappeurs d'aujourd'hui, tu peux que, leur dire merci, tu vois. Peu importe après comment la trajectoire elle a été faite ou pas, c'est des mecs qui ont foncé des portes et ils le disent aussi dans leurs morceaux. Après il y a IAM aussi, Solar aussi à bien sa sûr manière, Tonton David, enfin il y en a plein. Et avant ça aussi, on parle des Little MC et tout ça, tu vois. Il y a eu des gens, donc et c'est bien cet hommage là, même à la génération là des 20-25 ans là, ou même en dessous, c'est important justement de leur rendre hommage. Et ta chronologie, en tout cas le premier son, on valide.
Fort. Est-ce que à cette époque, tu l'as dit, t'aimais autant, enfin peut-être pas autant, mais t'aimais NTM, IAM, etc. Mm-hmm. Est-ce que il fallait choisir un camp ou on pouvait tout écouter et le dire?
Écoute, il y avait forcément cet état d'esprit du Paris, Marseille, etc. C'est un peu comme aujourd'hui dans le foot ou en Espagne entre le Real et le Barça.
Exactement. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça.
Mais moi, je suis pas de ceux qui choisissent des camps. Tu vois, encore une fois, choisir un camp, c'est bien, mais quand en face, ils sont bons. Il faut aussi avoir l'intelligence de reconnaître que c'est pas parce que toi t'es dans le camp d'en face que les autres sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Moi, pour en revenir au foot, j'aime le Barça, mais s'il y a pas un grand Real, je m'ennuie.
C'est vrai.
Et moi, j'aime le PSG, tu vois, mais s'il y a pas Marseille en face, même si il est éteint depuis.
Ça fait un moment que tu t'ennuies.
Attention, on va pas revenir, on va pas reparler de la remontada et tout ça, là. C'est des sujets sensibles. Mais comme quand il y a pas un grand Barça, mais c'est vrai en plus, tu vois.
Oui,
c'est
oui,
des
oui
choses qui font vibrer. Et,
voilà.
Et pour avoir un grand match, pour avoir un bon son et pour avoir une compétition, il faut avoir des équipes,
c'est ça,
tu vois.
Et NTM, IAM, c'est vrai qu'il y avait cette rivalité. D'ailleurs, on s'est toujours demander est-ce qu'un jour il y aurait un titre commun. Ouais. Je crois que ça avait failli se faire.
Exactement.
Je regarde Jamal pour pas dire de bêtises.
Et je peux te le dire parce que moi à l'époque j'avais posé la question à Kool Shen. Je dis mais en fait c'est quoi le truc. Et il m'a dit y a pas de truc en fait. Tu vois, vas-y, c'est comme ça.
Faut que la légende reste la légende.
Tu vois, c'est en gros c'est ça. Donc après peut-être que je me trompe, mais moi en tout cas de mon oreille de petit gamin qui rencontre NTM à une époque donnée comme tu dis. Moi j'étais un peu curieux aussi, mais c'est quoi le truc, parce que j'écoutais IAM
bien sûr,
mais il y a pas de truc en fait, c'est comme c'est vas-y c'est tu vois.
Ouais, non, c'est
laissons,
ça.
Laissons faire les gens et chacun prend ce qu'il a à apprendre, tu vois.
Exactement, ouais, okay. Exactement. Donc ouais, il y avait un peu de cette rivalité, mais voilà, moi j'ai toujours écouté ce que faisait IAM, j'ai toujours écouté ce que faisait NTM. Voilà, le but, c'était vraiment... En plus, tu sais, c'est une époque où forcément, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, quand un scud sortait, que t'avais, ou une cassette même, et que tu avais la possibilité de te le procurer...
T'écoutais du bon son.
T'écoutais, tu regardais pas trop d'où ça venait, t'écoutais déjà, tu vois. Et ouais. Quand ça te touche, quoi.
Ouais, c'est un sujet qu'on a abordé maintes et maintes fois sur ce plateau, avec l'arrivée du streaming qui a tout chamboulé. Tout chamboulé.
Exactement, ouais. Mmh. Ah ouais. On fera une c'est émission spéciale justement ça sur la transition, je pense.
Bah bon, on invite Jamal. On passe au deuxième extrait.
Allez.
Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société. Juste pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout crame. Les cris des jeunes deviennent des arts, qui désarment. Das Bougar, relève le gant. Quand tu le faut, deviens brigand. Cramer le système est mon slogan. Le chétan, tu donnes avec les deux. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'état bourgeois.
La lutte des classes
dans la masse, tu sens l'angoisse.
Trop très vite, petit boulet.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce deuxième morceau et nous dire où il se place dans la chronologie de tes choix?
Bien sûr, donc là on est en 1996. L'album s'appelle Ma cité va craquer. C'est la bande originale d'un film de Jean-François Richer, si je ne dis pas de bêtises. Et le titre s'appelle Sédition, c'est les deux balles avec Mystique.
Mystique,
et les deux balles et pas les deux balles de Neck, puisque deux balles de Neck c'était deux groupes, il y avait les deux balles et les deux Neck. Là c'est uniquement les deux balles, Jekyll et Doc TMC avec, en featuring avec Mystique. Et pourquoi j'ai choisi ce son? Parce que pour deux choses, encore une fois, il y a déjà pour le son en lui-même, c'est-à-dire que 1996... C'est un peu un point de rupture dans le hip-hop où on a beaucoup moins de breakbeat comme au début avec IAM, NTM, etc. Et là, il y a les MPC qui arrivent avec les rythmiques qui changent. Ça devient plus lourd, ça devient... Les caisses claires sont fortes, les pieds aussi. Et il y a aussi tout un tas... Parce que qu'est-ce qui se passe en 96, si tu te souviens bien? Il y a une loi qui passe obligeant les radios à jouer 40%
de français.
De français. Et donc Skyrock... passe du rap. Et
voilà, passe du rock, vraiment rap. Du rock et de la pop, au rap, au même rap. Si on pourrait appeler de la pop.
Exactement.
Enfin, je sais qu'historiquement, dans l'histoire du rap en France, ça a été marquant, un tournant.
Ouais. C'est ça. Donc il y a énormément de sons qui sortent, le rap vraiment explose à ce moment-là, la sonorité change avec l'arrivée des MPC, etc. Et la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai voulu qu'on passe ce son, c'est parce que c'est des MC qui sont du 77. C'est pas très loin de chez moi. Et ça se rapproche, en fait. Ça se rapproche de moi. Et notamment, Mystique, qui est un frère, qui a corrigé mon livre, France. Ah, okay. C'est lui qui a, je lui ai envoyé avant de le sortir. C'est lui qui l'a corrigé avec son épouse. Ils l'ont relu ensemble. Ils l'ont corrigé. Ils m'ont apporté, quelques idées aussi. Et donc, Mystique, quand je commence à l'entendre, dans Ma cité va craquer, puis après quand il fait son album solo, puis il a fait Bisson à Bisson, etc.
Après, première classe aussi. Avec
Première classe, aussi, exactement. Et donc, c'est un gars qui est de Meaux. Meaux, c'est à 30 minutes de chez moi. Donc là, on est vraiment à côté. On se dit, oh, ok, là, si eux, ils y arrivent, mais on y est, quoi. C'est aux portes de la maison. Donc c'était à la fois porteur d'espoir aussi pour nous.
Et c'est aussi à l'arrivée de Ma cité va craquer aussi, c'est une claque aussi dans le milieu du rap, hein.
Bien sûr.
Avec toute cette génération de Secteur A qui arrive aussi derrière, tu vois, même si
Ministère Hammer
et tout ça, qui avait déjà une histoire aussi. C'est quelque chose.
C'est un disque incroyable et voilà.
Et qui est encore d'actualité encore aujourd'hui en 2025.
Bien sûr.
Tu vois, t'écoutes les paroles de ça. 96, s'il te plaît.
Mais,
tu vois,
dites-moi si je me trompe, mais y a pas Fianso qui l'a remis au goût du jour en appelant un morceau Ma cité va craquer?
C'est possible. Je sais pas, même s'il n'y avait pas eu un sample qui avait été réutilisé.
Exactement, mais ça, il faut qu'on. qu'on prenne les archives, faut réviser nos classiques de 2000, de 2015.
Moi
non mais c'est vrai parce qu'il y a aussi des artistes aussi qui ont remis au goût du jour en fait tu vois toute cette époque
il y en a qui rendent hommage
et qui rendent hommage. Et aujourd'hui tu le vois et on a passé un son aussi la semaine dernière avec avec Rimka et SDM tu vois c'est des mecs qui sont arrivés un peu plus tard quand même de toute cette génération là tu vois 96 et tout ça. Mais c'est quand même cette ancienne école qui arrive.
J'ai hésité, tu vois, quand il a fallu choisir. Bon, il y avait Mystique dans le morceau Sédition, donc j'ai opté pour celui-là. Mais il y avait un autre titre dans Masté va craquer qui était incroyable, qui s'appelait Retour aux pyramides, qui est un titre de X-Men. Et là, pareil, si certains plus jeunes nous écoutent et ne connaissent pas. Retour aux pyramides de X-Men, c'est une leçon de rap et d'écriture et c'est très très puissant aussi.
Mais X-Men qui arrive aussi avec un nouveau style aussi à cette époque-là et qui met une claque à tout le monde.
Tu l'école vois. Time Bomb.
Avec Time Bomb, écoute, l'équipe Time Bomb et marque de génération.
Oxmo.
Ah, c'était incroyable ça.
Non, pour le coup, j'ai pas connu cette époque, je l'ai pas vécu, mais X-Men en découvrant l'arabe, c'est un des groupes qui m'a vraiment marqué. Le Retour aux pyramides, je l'ai dans mon téléphone, malgré mes 17 ans.
Ouais. Bravo à toi.
Bravo à toi, c'est important de le souligner. On va se faire un troisième morceau et puis on revient tout de suite sur Focus.
On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant tu soupires, et à moins de meilleur. Toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs, toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup c'est moins beau et t'es parti fâché. Parce que j'ai changé, tu veux me punir. Je vais pas me venger, je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime.
Malheureusement, le troisième et dernier extrait, pardon.
Yes.
Pourquoi ce troisième choix et qu'est-ce que c'est du coup ?
Alors, c'est This Is. C'est un morceau qui s'appelle Sublime. Et alors, je l'ai choisi là. C'est plus sur le plan personnel. Vu que je suis en train de divorcer, enfin, je suis séparé. Et c'est dans l'album de This Is, au moment où j'ai fait le choix de me séparer, il a sorti cet album qui s'appelle Amour. Et c'est marrant parce que c'est un rappeur aussi qui est là depuis longtemps.
Exact.
Et on a, je pense, à peu près le même âge, lui et moi. Et il a traversé finalement un peu la même chose et il le raconte dans cet album. Et je trouvais, je me suis reconnu. Et là, pour le coup, on est dans un style beaucoup plus moderne. Et voilà, c'est un titre qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné à cette période-là et qui, je trouve que les mots qu'il a choisis sont puissants. Et je trouve qu'il a fait un bel album. J'ai été le voir sur scène aussi. Alors, c'est un album qui a été discuté parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas
accroché,
validé ce
qui
style.
Pas validé parce que c'était un changement aussi dans son
style
de rap aussi, tu vois.
Exactement. Et moi, il m'a beaucoup parlé. C'est un des albums que j'ai le plus écouté l'année dernière. Donc voilà, c'était important que ce titre soit là parce qu'il m'a accompagné dans un moment important de ma vie. Et puis parce que au-delà de ça, je trouve que l'écriture qu'il a, la maturité qu'il a dans cet album, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Et quand on a traversé toutes ces années d'arriver à évoluer autant en termes de style qu'en termes d'écriture de cette manière, ben chapeau quoi.
Chapeau. Ouais. Et pour la petite parenthèse. On n'a pas le même âge, mais c'est l'un des rappeurs préférés de Melik.
Je le porte dans mon cœur. Mais vraiment, tu l'as dit, cet album, il est écrit sur un fond des illusions amoureuses.
Ouais, c'est exactement.
Ça. D'où le fait que tu te sois reconnu là-dedans. Et il fait partie de ceux qui ont vraiment traversé les époques. Lui, pour le coup, en changeant du tout au tout
de
dans
tout
son
tout
style.
Tout, ouais. Parce qu'il est passé du rap, des mélodies un peu, des trucs un peu électro aussi.
Même à un moment donné, je crois qu'il était un peu dans des trucs rock, un peu, quoi.
Carrément,
Peter Punk, je crois.
Ouais, carrément, tu vois. Mais en tout cas, c'est bien de le traverser aussi dans tout ça et dans ta proposition, justement. C'est un peu éclectique voilà, et on sent que t'es un vrai amoureux du rap et tu vois, tu sais de quoi tu parles et c'est là où c'est super important et d'avoir justement ces témoignages là et qui passent aussi les époques. Voilà, nous on valide tout à fait, nous sur Focus.
Merci.
On valide tout à fait.
C'était pas facile d'en choisir.
Ouais, mais tout le monde nous le dit à chaque fois.
Mais c'est fait exprès justement, tu vois, c'est fait exprès. Ouais. C'est un exercice compliqué, mais à la fois qui en dit beaucoup aussi sur la personnalité des gens qu'on reçoit.
Tu vois. Sûr, bien sûr. Et après, tu vois, il y avait la question aussi de se dire, est-ce que je vais pas aller chercher aux États-Unis, parce que forcément il y a plein de MC là-bas qui m'ont marqué, mais j'avoue que je suis quand même j'étais quand même plus un consommateur de rap français, même si j'ai voilà Jay-Z, Nas, j'ai des classiques de New York, Wu-Tang, etc. J'ai toujours kiffé, mais voilà, j'ai voulu rester chez nous et
c'est important.
Et voilà, avec des
c'est important, même ça veut pas dire qu'on valide pas aussi outre-Atlantique. Hein.
Non, bien sûr, c'était des très grands noms. Non, c'est mon prof de français au collège qui m'avait fait découvrir. Okay. C'est rare qu'à l'école, les professeurs avant du rap, il avait décortiqué la beauté de ses textes, la façon dont il posait et tout. Et en cours de français, je trouvais ça fou.
Magnifique.
C'est rare. On t'a fait une petite surprise au début.
Ouais.
Et cette fois-ci, on va se faire un petit cadeau à nous-mêmes. On va s'écouter Citoyen du Monde, un de tes morceaux qu'on a tous trouvé vraiment incroyable. Que Jamal connaissait déjà et on va se l'écouter.
On va faire profiter. Découvrir à nos petits jeunes. Tu vois.
Let's go. Tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM.
Est-ce que le fait que des gens aujourd'hui s'appellent Mohamed, s'appellent Diallo, est-ce que ça vous choque?
Oui, ça me choque. Vous ne pouvez pas demander aux gens de vivre ensemble s'ils sont trop différents, s'ils sont de culture trop différente, parce que ça, c'est sur un plateau de télévision.
Ce livre et l'ensemble de l'œuvre actuelle d'Éric Zemmour est monstrueux.
Ya, petit-fils d'immigrés espagnols nés en France, pas si loin des terres de Pagnol. J'avoue n'avoir pas été bien loin à l'école. L'histoire de France n'est pas mon fort, ne fut pas ma geôle. J'en ignore sans doute plus que j'en connais. Mais ce que je connais, c'est ce que la France a bien voulu me donner. Grâce à elle, j'ai voyagé sans me déplacer, changeant de bon cœur, culture de mille contrées. J'ai partagé Noël avec un Marocain qui m'a reçu pour la Eid, faisant tout pour que je me sente bien. Des Antilles, je connais les saveurs, quelques mots de créole et le rhum qui réchauffe les cœurs. J'aime le mafé, surtout quand il est bien fait. Le rougaille, le cabrimassa, les réunionnais. L'islam ne m'effraie pas tant il rime avec tolérance. J'aime l'hébreu, cette langue danse. Vous n'y pas pris que dans l'assiette, musique slave de Bordan. Et je m'envole vers les Balkans. Donc je me fous des guerres du passé car je n'en veux plus. Moi j'aime les autres, leur culture et leur contenu. J'aime apprendre, échanger, comprendre. J'aime la vie, l'amour, j'aime voir des murs qui tombent. J'aime une femme, elle vient de Tunisie. Mon fils s'appelle Eden et on vit en Picardie.
Ne dis pas comment je dois appeler mes enfants. Non, ne me dis surtout pas ça, non. Moi j'aime la France, mais surtout j'aime ma terre. Citoyens qui vont avant tout, yeah. Ne dis pas comment je dois appeler mes enfants. Non, ne me dis surtout pas ça, non. Tu sais l'amour n'a pas de frontières. Citoyens du monde avant tout, yeah. Yeah.
Je veux lui dire que je l'aime. Cassé sur un banc de Paris, je vois les montagnes et les plaines. Que je lis dans les hommes comme dans les livres. Moi qui plus jeune à l'école avais plutôt le rôle de pitre. J'aime ces paysages que je n'ai jamais vus. Ces odeurs magnifiques que je n'ai jamais senties non plus. Mon passeport est vide mais ma tête est pleine. Pleine d'images, de chaleur, pleine d'êtres que j'aime. J'aime mes amis car ils viennent des cinq continents. J'ai beau chercher, pas de frontières pour les sentiments. J'aime le métissage, le mélange des couleurs entre Asie et Afrique. Je sens balancer mon cœur. J'ouvre mon âme, il fait de la place à l'infini. Citoyens du monde, venez y compter vos récits. J'aime une femme, elle vient de Tunisie. Mon fils s'appelle Eden et on vit en Picardie.
Ne dis pas comment je dois appeler mes enfants. Non, ne me dis surtout pas ça, non. Moi j'aime la France, mais surtout citoyens du monde avant tout, yeah. Ne dis pas comment je dois appeler mes enfants. Non, ne me dis surtout pas ça, non. Tu sais l'amour n'a pas de frontières. Citoyens du monde avant tout, yeah. Yeah. Nanana, nanana. Yeah.
J'aime voir des murs qui tombent pour tous mes citoyens du monde. Yeah. De toute contrée, de tout pays. Yeah. Venez y compter vos récits. Dernier pro.
Vous écoutez Focus sur IDFM 98FM. Nous sommes avec Nicolas Delarua. On vient d'écouter Citoyen du Monde, l'un des morceaux qui a 15 ans.
Maintenant. Dernier pro.
C'est ça.
Exactement.
15 ans.
Du rap qui fait du bien. On est très friands ici de ce genre de son bah, qui amène de la nostalgie hein, pour le coup. Dans quel contexte t'as écrit ce morceau?
Ben, tu sais, ça part de cette fameuse polémique à l'époque qui est ressortie d'ailleurs il y a quelques années, je crois. Mais déjà à l'époque, Éric Zemmour avait dit que quand on vit en France, on devrait donner des prénoms français à ses enfants. Et ben, par rapport à ce qu'on a dit en commençant, de ce que j'explique dans mon livre, etc. Forcément, moi, je peux pas valider ça. Tu vois, je peux pas valider ça. Mon fils né en 2007. Il s'appelle Eden. Ce morceau, je le fais en 2010. Donc, mon fils, c'est encore un bébé, mon fils, tu vois. Ouais. Et lui, il vient me dire à moi que j'aurais dû appeler mon fils avec un autre prénom, tu vois. Ouais. Non.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Ça va pas le faire. Donc, ben, le rap, encore une fois, c'est un moyen d'expression. C'est mon moyen d'expression, surtout à cette époque-là. Et ben voilà, je vais faire en sorte que je vais reprendre le passage de l'émission et puis moi je vais lui raconter ma France.
Ouais, passage qu'on entend au tout début en intro du morceau. Bah félicitations pour ce morceau, vraiment
merci
incroyable.
Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs juste grosse dédicace à Dr Swing qui est le compositeur de ce morceau et qui est un très très grand ami aussi et qui avait composé notamment aussi pour Diams, pour Kool Shen, pour
exactement.
Beaucoup
c'est ce
de
que,
monde.
C'est ce qu'on disait, c'est un grand compositeur et voilà. C'est.
Je fais une petite parenthèse, mais justement, tout à l'heure, tu parlais de football,
ouais.
Ton amour pour le Barça.
Ouais, le Paris aussi, Saint-Germain aussi, tu l'as dit un peu, non?
Ouais. Je ne me souviens pas.
Non, mais ça allait jusqu'aux oreilles de Dr Swing et t'as laissé un petit message.
Ah ouais, ah là
là. Bonjour, dernier pro. Il est de notoriété publique que vous êtes supporter, fervent supporter du football club de Barcelone. Après la remontada, succession d'erreurs d'arbitrage et magouilles en tout genre, ma question est, qu'est-ce que ça fait de se regarder dans une glace et de se dire que l'on supporte un club de truands?
Alors qu'est-ce que ça fait de...
Swing, je valide, tout à fait d'accord avec toi.
Je vais m'adresser, je vais lui répondre directement, ce sera plus simple. Frérot, ton message pue la mauvaise foi.
J'avoue, c'est bon.
Comme quoi les défaites ça fait mal. Hein.
Et en plus de ça, après je sais pas à quel point il supporte le PSG, mais là tu m'en parles encore, ça me brise le cœur.
Ouais, moment difficile.
Ah, c'était un moment
difficile. Et ouais, justement, quelle place a le foot toi dans ta vie?
Écoute, moi je suis un très 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 grand supporter du Barça depuis très 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 longtemps. Je vais régulièrement à Barcelone avec mon fils parce que ben c'est héréditaire hein, ces trucs là. Donc lui il a je ne sais pas combien de maillots du Barça, il m'a piqué les miens même d'ailleurs. Donc il a toute une collection, il a une chaussure signée par Lamine Yamal, un maillot
incroyable,
signé par Araujo, un autre maillot par Koundé, il a un bout de filet des buts du stade. On a un siège du Camp Nou dans sa chambre quand ils l'ont démoli là le stade.
Okay.
On a pu se procurer un des sièges. Il a un siège du Camp Nou dans sa chambre. Donc sa chambre c'est un petit musée du Barça et j'ai un rapport à ce club qui est ma grand-mère paternelle était catalane.
Okay.
Donc mais il se trouve que mon grand-père maternel était de la région de Madrid. Donc tu vois, j'aurais pu
la rivalité
être dans
mais
l'autre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, moi je suis un grand supporter du Barça, pour autant j'ai pas du tout de haine envers le Real de Madrid et j'aime quand les classicos sont à un niveau très haut et voilà, je suis tous les matchs du Barça et je suis très content qu'en France on ait Omar da Fonseca que j'ai eu l'occasion de croiser. qui est pour moi est c'est un commentateur, pour moi c'est un des meilleurs commentateurs francophones de football. Voilà, il y avait Eugène Saccomanno à l'époque, mais Omar,
et il a cette particularité aussi de bien connaître le football, on va dire espagnol, tu vois, et pas que, mais voilà, c'est oui, le football latino en général, tu vois.
Ouais, puis le football même tout court, parce que quand il parle, que ce soit technique ou stratégie de jeu, il a une intelligence dans ses commentaires. C'est pas seulement émotionnel comme on pourrait croire, parce qu'il chante, il crie, voilà, c'est un Argentin. Mais il a cette intelligence dans l'analyse que j'aime beaucoup. Et on sent qu'il aime le foot. C'est un grand passionné de football et je suis heureux de pouvoir voir les matchs du club que je supporte commentés par ce gars-là. Ça fait double dose de bonheur.
En tout cas, c'est une belle parenthèse.
Ouais, si ton fils veut une petite dédicace de ma part,
je pense pas.
Tu joues au Barça?
J'ai joué, fut un temps.
C'est vrai?
Ouais. Il joue au berceau.
Ah, peut-être t'as été au centre de formation, je sais pas. Mais si t'es là, c'est mauvais signe. Ceux qui t'ont pas gardé.
Je suis passé devant, mais je suis pas rentré.
Okay.
Il est rentré, il a touché la porte et il s'est barré.
J'étais en crampon devant. J'ai pas pu rentrer.
T'avais mis toutes les chances de ton côté.
Ouais, j'avais tout.
Ah, je t'aime bien, Mélique, mais là, quand même.
Et on va recentrer le débat. Il y a une chose aussi dont tu parles dans ton bouquin, et une chose qui nous a tous marqué ici, parce que c'est le fait d'oser, de se renouveler, de tenter des choses, etc. Et toi, tu as utilisé tes compétences acquises dans la musique pour finalement vivre de ta passion. Aujourd'hui, tu as une agence de communication digitale, et tu as appris à filmer, monter et mettre en avant les choses grâce à ton parcours dans la musique.
Exactement. Quand je faisais du rap, c'est mon frère qui me filmait. Moi, je faisais les montages pour les clips. Donc, j'avais déjà cette compétence-là de savoir faire du montage. Et effectivement, quand en 2018, je décide de monter mon agence de communication digitale qui s'appelle Soul Métrage, eh bien, j'ai déjà cette compétence et j'ai plus qu'à apprendre à me servir de la caméra, bon, des drones et tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, c'est une continuité. La vie, c'est un cheminement et puis, cette culture, le hip-hop, c'est aussi la culture de la débrouille. Moi, aujourd'hui, j'ai une agence de communication digitale et je compte parmi mes clients des grandes entreprises comme le groupe Accor, sonvideo.com, qui sont plutôt des grosses boîtes qui me font confiance alors que je n'ai pas un diplôme dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je leur fais des vidéos, des photos. Je n'ai pas fait une heure d'études dans ce domaine. Je suis autodidacte, mais le hip-hop m'a appris ça. On faisait nos disques nous-mêmes, on allait les promotionner nous-mêmes, on faisait des stickers, on les collait nous-mêmes, on faisait tout nous-mêmes. Et donc ça je l'ai gardé. Et aujourd'hui, dans ce que je fais au quotidien, eh ben ça me sert encore et ça donne confiance, parce que tu peux voir des jeunes qui sortent d'une école de cinéma et qui vont te dire non mais là tu comprends, il faut filmer comme ça, etc. Mais moi je m'en fous.
Ouais, tu fais tes propres codes.
Voilà.
C'est l'école du hip-hop et ça apprend beaucoup de choses.
Tu sais, je me permets de vous raconter une anecdote. Une fois, je suis en studio avec un ingénieur du son à qui je passe une dédicace. Il s'appelle Mitch. C'est un ingénieur Mitch Olivier, qui a mixé beaucoup de grands albums. Et je suis en studio avec lui. Il y a la console de mixage et il y a une des pistes où ça tape dans le rouge. Et je lui dis à Mitch, fais gaffe là, ça tape dans le rouge. Il me dit, comment tu le sais? Bah, parce que je le vois. Il me dit, tu l'entends? Je dis, bah non. Il me dit, bah alors on s'en bat les couilles. Et finalement, ce qui veut dire que la théorie, tu vois,
ne fait pas forcément partie de la pratique.
Ce qui compte, c'est le résultat dans tout ce que tu fais. Les théories, les trucs de prof, de formation, tout ça, c'est bien si ça peut te mettre en confiance. Mais si ce que tu fais, ça claque, ça claque, peu importe par où t'es passé. Donc faut faire, en fait.
Ah, la théorie de Mitch, pas mal.
Ouais, c'est beau, je vais dire vraiment, ça à Jamal la prochaine fois.
Quand il va me dire, mais t'as vu, t'as fait tomber ça, ton téléphone, on l'a entendu, mais ça dérange. Non. Ben voilà. Merci Nicolas.
Avec plaisir.
On prend des armes.
Et tout ce cheminement, finalement, pour oser vivre de ta passion, te lancer, il y a eu un travail sur toi, et il y a quelqu'un qui t'a fait confiance dans le milieu où t'étais à la SNCF.
Ouais,
tu peux revenir sur cette anecdote dont tu parles
Moi je suis rentré sur les chantiers à la SNCF en 1998. Donc je remplaçais des rails, des traverses, beaucoup la nuit, dans le froid, sous la pluie, etc. Et à côté de ça, je faisais donc du rap à l'époque. C'était pas, donc des fois, je passais du studio à aller sur des chantiers. Ça me remettait à ma place. Tu vois, là, tu peux pas prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que, en 2018, quand je décide de créer mon agence de communication digitale, ça fait 20 ans que je suis à la SNCF. Et j'en ai marre parce que ça me fait pas kiffer. Et je vais voir mon directeur. Je lui dis, écoute, voilà, moi, maintenant, je veux démissionner. Et lui, il me dit, en fait, lui, il m'avait un peu stalké sur les réseaux, il savait un peu ce que je faisais. Il me dit, écoute, si je crois que tu sais faire ce qu'apparemment tu sais faire, si tu sais vraiment le faire, moi, ça m'intéresse. Développe ta boîte si tu veux, mais reste chez nous. On va te créer un poste de chargé de contenu et tu vas nous faire aussi à nous des photos et des vidéos. Et moi, ça, je l'avais même pas vu venir. Finalement, c'est le jour où tu vas pour claquer la porte, qu'on t'ouvre une porte encore plus grande. Et donc, je suis resté... aujourd'hui, j'ai mon agence de communication digitale. Donc, je suis entrepreneur d'un côté et je suis en CDI de l'autre à la SNCF pour qui je fais des vidéos, des photos. Je suis chargé de contenu à la SNCF.
Incroyable.
C'est magnifique.
Ça veut dire qu'en fait, ouais, et je te, désolé de te couper, mais quand on dit il faut croire en ses rêves, tu vois, là, c'est encore un vrai exemple, tu vois, ce que tu, et oser faire les choses quand on a marre de quelque chose, tout ça, même s'il faut vraiment mesurer le pour et le contre, et tu le dis dans ton livre. La SNCF, tout le monde te dit, mais non, t'es fou, tu peux pas quitter la SNCF,
exact.
Tu vois.
Ouais.
C'est, en gros, t'as une place, et c'est vrai.
Oui, c'est une place avec la sécurité de l'emploi.
Exactement.
Parce que moi, je suis rentré à l'époque où j'ai le statut de cheminot.
De cheminot.
Tu payes pas le train, etc. Ouais. T'as des avantages, mais attends.
Au bout d'un moment.
Il y a 100, je me dis, à ce moment-là, je me dis, il y a 150 000, personnes qui travaillent à la SNCF. On est 66 millions en France. Ça va, si c'était si important que ça, les
on
autres.
On serait tous dedans.
Voilà. Donc ça va, tu vois. Donc, puis tu sais, aujourd'hui, je sais une chose, et ça, je le dis à qui veut l'entendre, mais il faut vraiment l'écouter. Dans la vie, la plus belle rencontre que l'on peut faire, c'est la rencontre avec soi. C'est-à-dire que le jour où tu vas vraiment décider d'accepter qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux et où tu veux aller, ce jour-là, ta vie, elle va forcément changer parce que tu n'aborderas plus du tout les choses de la même manière. Et les seules barrières qu'on se met dans la vie, ben, c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes, en vérité. On est là à se plaindre, mais tu sais, si tu as décidé que tu vas avancer, tu avanceras d'une manière ou d'une autre. Ça prendra peut-être plus de temps pour certains. Mais quand on veut vraiment quelque chose, quand les tripes le veulent, le cœur le veut, la tête le veut, le tiers c'est gagnant. Tripes, cœur, tête. Si t'as ça, tu vas les éclater les barrières.
Écoute Nicolas, on a pour habitude de donner le mot de la fin à nos invités.
Et là, je crois que t'as
pour transmettre un message,
vraiment,
justement,
vraiment.
Je pense qu'on ne peut pas mieux faire que ça.
Ouais.
Moi, j'invite les auditeurs à découvrir l'écrivain que t'es à travers France,
mm-hmm.
De Nicolas Delarua, et l'artiste aussi que t'es à travers Dernier Pro et les 4 albums que t'as sortis.
Mm-hmm.
Il y a vraiment des pépites. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci beaucoup. Juste une chose, le livre, il est uniquement disponible sur le site france-lelivre.fr. C'est le seul endroit où on peut le trouver.
Je fais bien de le préciser. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose d'autre pour le futur? Est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de mettre en avant? On t'accorde la dernière minute tout de même.
S'il y a une chose à me souhaiter, souhaitez-moi d'avoir la santé, parce que tant que j'aurai la santé, il n'y a pas grand-chose qui pourra m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc souhaitez-moi juste la santé et le reste, on va continuer à donner de l'amour et à essayer de faire ce que j'aime du mieux possible. Et voilà.
Eh ben, écoute, on te le souhaite.
En tout cas, merci justement pour ce que tu es et ce que tu as fait découvrir aussi à nos auditeurs. Merci à Jamal qui me parle de toi et qui parle de toi à l'équipe aussi depuis
c'est
un certain
moment.
C'est
une valeur sûre, Jamal.
Exactement. Et on n'en doute pas, s'il est là dans le bateau, c'est que voilà, on a été validé. Mais en tout cas,
clairement.
Merci Nicolas, merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire.
Merci à vous.
Les auditeurs, allez-y. Allez, France, si vous avez besoin, passez-nous un coup de téléphone, taguez-nous sur les réseaux et puis on vous donnera toutes les coordonnées. Et on se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine sur Focus, bien sûr.
De Flat présente Focus.